écoutez Radio J, il est 15h.
À la une de l'actualité, le 205e jour de guerre contre le Hamas et sur le front nord. De nouvelles attaques du Hezbollah dans la nuit, 26 roquettes tirées contre Israël. Le ministre français des Affaires étrangères est au Liban aujourd'hui. Stéphane Séjourné présentera des propositions pour éviter une guerre entre Israël et le Hezbollah qui est soutenu par l'Iran. La proposition de la France a été discutée avec ses partenaires, notamment les États-Unis, mais elle n'a pas progressé. L'analyse du diplomate israélien Yigal Palmor.
Ça ne va pas se jouer à Beyrouth, puisque ce qui se passe en ce moment, en fait, a commencé à Gaza. Le Hezbollah a rejoint le Hamas dans cette attaque tout à fait non provoquée. Et en fait, le Hezbollah conditionne tout apaisement de la situation au Liban à la situation à Gaza. On fait donc face à deux sbires iraniens qui sont plus ou moins gérés, entraînés, financés par l'Iran, qui se donnent la main, en fait, à Gaza et au Liban.
Yigal Palmor, diplomate israélien, le Hezbollah de son côté a affirmé qu'il ne voulait pas discuter tant qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu à Gaza. Israël souhaite pouvoir garantir le retour en sécurité chez eux des 80 000 Israéliens déplacés du nord d'Israël à cause justement des attaques quotidiennes du Hezbollah, groupe terroriste direct mandataire de l'Iran. La guerre psychologique du Hamas qui publie une nouvelle vidéo d'otages, un film où apparaissent Keith Siegel, citoyen américain de 64 ans, et Omri Miran, 47 ans. Dans ce film scénarisé par le groupe terroriste, les deux otages plaident pour que les manifestants israéliens qui protestent contre le gouvernement Netanyahou le fassent tomber. Sur les 133 otages détenus dans la bande de Gaza, seuls 95 seraient encore vivants. D'après la 12e chaîne israélienne, une réponse sur un accord à propos de la libération des captifs pourrait intervenir dans les 48 heures. Mais un responsable israélien affirme que Jérusalem a refusé le retrait militaire total de la bande de Gaza et les autres exigences présentées par le Hamas. En Israël, les manifestations hebdomadaires pour la libération des otages et de nouvelles élections. Manifestation hier soir à Césarée, près du domicile du Premier ministre israélien. Les protestataires ont repris en chœur leur slogan destiné à Benjamin Netanyahou à propos des otages. Que font-ils là-bas? Ils les abandonnent à Gaza. Appel similaire à Tel Aviv, avec là des milliers de personnes, et aussi dans le nord, à Pardes Hana Karkour, près de Hadera. Plusieurs dizaines de manifestants ont bloqué l'autoroute numéro 4 en brandissant des pancartes pour appeler à des élections anticipées. Une flottille pour Gaza bloquée en Turquie. La Guinée-Bissau refuse son pavillon aux deux navires de cette expédition. La coalition d'associations y voit le résultat de pression. Selon les termes employés par le communiqué de la flottille, la Guinée-Bissau est complice, je cite, de la famine délibérée imposée à Israël. En 2010, une précédente flottille de ce type avec des islamistes à bord d'un navire, le Mavi Marmara, a été au centre de la détérioration des relations entre la Turquie et Israël. Acheminer davantage d'aide à Gaza, justement, c'est le but de la construction d'un site sur les côtes du territoire, un projet porté par Jérusalem et Washington. Tsahal et le ministère israélien de la Défense ont diffusé hier les images des travaux en cours de ces fameux quais flottants. En France, après la fin du blocage de Sciences Po, le Premier ministre affiche sa fermeté. Il n'y aura jamais de droit au blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse, a affirmé Gabriel Attal. Le père Christophe Lesourd, ce matin sur Radio J, a réagi de son côté à ces blocages à Sciences Po.
Bien sûr, nous sommes tous bouleversés de ce qui se passe, comme dira, à Gaza. Mais on ne peut pas imputer la totalité des faits, comme dire, au seul gouvernement israélien. Comme dire, évidemment, il doit y avoir la libération de la totalité des otages. Et là encore, on est très touché du fait qu'il y a un silence minéral en France vis-à-vis de nos concitoyens qui sont aujourd'hui détenus en otage. Bien sûr qu'il faut penser à la totalité des otages.
Le père Christophe Lesourd, directeur du service national pour les relations avec le judaïsme, qui était ce matin l'invité de Radio J, l'intégralité de cet entretien est notamment à retrouver sur notre compte YouTube. Chag Pessah Sameach à tous, l'entrée de Yom Tov c'est ce soir à 20h43 et la sortie ce sera mardi à 21h59 dans un instant, l'émission spéciale Pessah du Rav Mevorar Zerbib sur Radio J.
Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
Bonjour et moi Dimi Simcha pour cette émission spéciale veille du 7e jour de Pessah, en ce 6e jour de la fête de Pessah, 7e jour de Pessah, un jour très particulier. Et oui, une émission spéciale pour les deux derniers jours de Pessah, je dirais, pour nous qui sommes en dehors d'Israël. En Israël, il n'y a qu'un seul jour, le Shvi'i chez le Pessah, le 7e jour de Pessah. En dehors d'Israël, on a un Shvi'i et soit Shmini, le 8e jour, soit Acharon chez le Pessah. C'est comme ça que c'est appelé dans les textes, le dernier jour de Pessah. Alors c'est un jour très particulier parce que c'est la fin de la fête de Pessah et c'est pas une fête à part. C'est le seul cas où on a un jour chômé de fête qui n'a pas un statut particulier. Tous les soirs on fait le kiddush, ce soir on va faire le kiddush des trois fêtes. Habituellement quand on fait un kiddush des fêtes ou kiddush de Rosh Hashanah ou kiddush des trois fêtes de pèlerinage, c'est toujours une nouvelle fête et donc à la fin du kiddush on fait la bénédiction de Shehayanu qui nous a permis de vivre, d'atteindre cette nouvelle fête. Alors on le fait pour les premières fêtes de Sukkot, on les fait pour la fin puisque c'est une nouvelle fête, Shmini Atzeret à la fin de Sukkot, on le fera pour Shavuot, on l'a fait pour les premiers jours de Pessah. Et quand on a en Israël c'est un seul jour et quand on est en dehors d'Israël c'est deux jours, et le deuxième jour aussi on fait aussi Shehayanu, on le fait aussi pour Rosh Hashanah, mais ce soir eh bien pas de Shehayanu, on est dans la continuité de la fête de Pessah. Et donc ça veut dire que il y a pas la problématique qu'on avait eue pour le soir du Seder où il fallait attendre la nuit pour pouvoir commencer le kiddush parce que il fait partie des quatre vers qui sont liés à la matzah, qui sont liés à l'agneau pascal à l'époque, et on disait qu'il fallait manger la viande, la viande la nuit, donc il y avait une obligation d'attendre la nuit pour commencer le Seder. Pour la fête de Shavuot qui arrivera bientôt, il y a une histoire de Temimot, que les semaines soient complètes. Alors, il y a un débat, est-ce qu'on doit attendre la nuit ou pas pour le kiddush ? Et en tout cas, il y a un principe de devoir attendre la nuit. Pour le soir de Sukkot, eh bien, il y a une analogie entre les textes qui parlent du 15 Tishri et du 15 Nissan, et on apprend des enseignements de l'un pour l'autre. Et comme pour le 15 Nissan, vous comprenez, pour la soirée du Seder, on doit attendre la nuit pour faire le kiddush, eh bien, le soir de Sukkot, on doit aussi attendre la nuit pour faire le kiddush. Quand on arrive à la fin de la fête, on va sortir de Sukkot pour arriver à Shmini Atzeret. Là aussi, c'est pas franc du collier, c'est vrai, mais il y a un sens de finir la fête de Sukkot pour pouvoir entrer dans une nouvelle fête qui est la fête de Shmini Atzeret. Quand on parle de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Alors, est-ce qu'on va faire avancer le jour du jugement? Ça peut être un débat. Mais par contre, pour le septième jour de Pessah, pour ce soir, pas de problème. On peut faire comme pour Shabbat, Miberodium, comme on dit, alors qu'il fait encore bien jour. On peut faire le kiddush et se mettre à table et manger, etc. Il y a pas de problématique. Alors, comme on a eu l'occasion de le dire, c'est un jour de fête qui est assez particulier, puisque on ne dit pas pourquoi, qu'est-ce qu'il marque ce jour de fête. Autant le premier jour de Pessah marque la sortie d'Égypte, il y a 7 jours de fête, et le 7e est chômé. Mais pourquoi ? C'est pas marqué dans le texte de la Torah. D'un autre côté, on nous parle, après la sortie d'Égypte, du passage de la mer Rouge, sans nous préciser la date où il y a eu le passage de la mer Rouge. Et ce sont les sages qui vont faire le lien entre l'événement et la fête, pour nous dire que le 7e jour de Pessah, c'est le jour anniversaire du passage de la mer Rouge. Alors, c'est intéressant ce point-là, parce que on retrouve ce principe avec une autre fête, qui est Shavuot, la fête de Pentecôte, la fête de Shavuot qui arrive 50 jours après le premier jour de Pessah, après la période des 49 jours du Homer, où la fête de Shavuot, bien dans la Torah, on nous dit que c'est un jour qui est chômé, un jour qui est un Yom Tov, mais la Torah ne précise pas pourquoi c'est un Yom Tov. Alors, on parle de la fête des prémices. Donc, toutes les fêtes ont toujours un lien avec la vie agricole. Mais il y a aussi un lien avec l'histoire du clan d'Israël. Avec l'histoire. Pour Shavuot, dans la Torah, c'est pas marqué le lien entre la fête de Shavuot et l'événement, l'épisode historique qui est arrivé à ce moment-là. D'un autre côté, quand on parle du don de la Torah, il est marqué en toutes lettres que c'était au 3e mois, oui. Il est marqué que c'était à un 3e jour. Il fallait attendre à 3 jours, mais 3 jours à partir de quand ? Du premier jour du Sivan ou je sais pas quel jour. Et ce sont les Chachamim qui vont nous faire le lien entre la fête de Shavuot et le don de la Torah. On voit ici un lien remarquable entre le 7e jour de Pessah et la fête de Shavuot, qui ressemble un petit peu à une fête de conclusion de Shavuot. C'est un peu la conclusion de la fête de Pessah, parce que il ne peut pas avoir de liberté sans constitution et sans programme. La liberté de Pessah ne prend de sens que quand les enfants d'Israël vont recevoir la Torah, comme on le voit au niveau des verres que on boit le soir du Seder, qui correspondent à 4 verbes de libération. Le 4e est Tant vers la quartier et très millénaire, je vous prendrai comme peuple, qui correspond à la fête de Shavuot. Donc c'est tout le sens. Alors, la fête de Shavuot est à 49 jours après les premiers jours de Pessah. Et il y a ici un lien remarquable, un lien d'autant plus remarquable que pour la fête de Shavuot, comme pour le 7e jour de Pessah, il n'y a pas de mitzvah spécifique. Alors certes, on est dans la continuité de manger les matzot, puisque c'est encore Pessah, on doit manger les matzot, on n'a pas rendu chametz pendant toute la fête de Pessah, les derniers jours compris, mais il n'y a pas une obligation de manger la matzah comme il y a une obligation d'une mitzvah de manger la matzah le premier soir de Pessah. De la même façon, pour Shavuot, il n'y a pas de mitzvah spécifique. Bon, il y avait une mitzvah dans le temple d'amener des pains de prémices, mais c'est une mitzvah dans le temple. Alors vous allez me dire, oui, on doit manger des mets lactés, ce sont des traditions. Beaucoup de traditions pour Shavuot, mais de mitzvah de la Torah qui concerne tout un chacun, il n'y a pas. Et donc il y a une similitude intéressante entre le 7e jour de Pessah et la fête de Shavuot, d'autant plus qu'il y a un autre point qui est pas très très connu, qui est la veillée. Alors, le soir de Shavuot, tout le monde connaît la veillée de Shavuot, soit parce que les enfants d'Israël étaient partis dormir et on a dû les réveiller pour recevoir la Torah. Alors, pour réparer cette attitude des enfants d'Israël d'aller dormir un petit peu trop tôt, alors on va veiller la nuit de Shavuot. Mais il y a aussi une veillée qui est le 7e soir de Pessah. Autrement dit, ce soir, parce que pendant toute la nuit, le vent a soufflé pour assécher la mer, littéralement. Et c'est la première veillée, d'ailleurs, quand il y a des livres qui s'appellent Kéri et Moed. Ces livres sont des livres qui consignent les textes que l'on doit lire le soir des veillées. Il y a 3 veillées, en fait, dans l'année, comme les trois fêtes de pèlerinage, chaque fête de pèlerinage ayant sa veillée. Alors on connaît la veillée de Shavuot, on vient d'en parler, la veillée de Sukkot que l'on fait le soir de Hoshana Rabba, où là aussi il y a une veillée, on veille toute la nuit en lisant des textes de livres de Devarim, les Tehillim, tout ça, ça c'est pour la veillée de Hoshana Rabba, qui est le septième jour de Sukkot au passage. Eh bien, le septième jour, septième jour de Pessah, il y a aussi la veillée. Alors c'est très très remarquable ce point-là, parce que il y a un lien entre la veillée du soir, du septième soir de Pessah, en connexion avec Shavuot, parce que c'est quelque part l'aboutissement. On va dire que le septième jour de Pessah, c'est comme un peu un avant Shavuot, hein, comme on voit qu'il y a une sorte de révélation qui se fait le septième jour de Pessah, puisqu'on lui dit Ra'ata Shifra Layam, Mashelora Yecheskel Ben Buzi, que la plus simple servante a vu ce que le prophète Ézéchiel n'a pas pu voir. C'est qui le prophète Ézéchiel? C'est celui qui a eu la vision du char divin, le Maaseh Merkava, vision prophétique sur laquelle est basée toute la Kabbale. Toute la Kabbalah est basée sur cette vision prophétique du prophète Ézéchiel. Et ben, le prophète Ézéchiel n'a pas vu autant que la plus simple servante au moment du passage de la mer Rouge. C'est vous dire que ce qui s'est passé le septième jour de Pessah est énorme. Et c'est une révélation. Une révélation au même titre que la révélation du Sinaï. Alors donc, similitude entre le septième jour de Pessah, ce jour de révélation, comme la fête de Shavuot, jour de révélation par excellence. Alors, on a cette similitude, ce lien, mais on a aussi le lien avec la fête de Sukkot, où dans les deux cas, c'est le septième jour où il y a une veillée, où il y a quelque chose de fort qui se passe dans cette nuit. Et dans les livres donc que je vous ai évoqués tout à l'heure, les Keri et Moed, qui est donc les livres qui consignent les textes que l'on doit dire pendant cette veillée. Alors pour Shavuot, c'est les débuts et fins de chaque paracha et de chaque livre de la Bible. Certains rajoutent même les débuts et fins des Mishnayot, mais d'après la Kabbale, on dit c'est pas bien de lire les Mishnayot ce soir-là, c'est pas le soir des Mishnayot. Pour Hoshana Rabba, pour le septième jour de Sukkot, c'est l'ensemble du livre de Devarim et tout le livre de Tehillim, le livre des Psaumes. Et pour la veillée du septième jour de Pessah, eh bien, c'est l'ensemble des 10 chants qui sont mentionnés dans le Tanakh, dans la Bible. Dans ces 10 chants, on a évidemment le cantique de la mer Rouge, le cantique du puits Shira Be'er, le cantique de Moshe à Zinou à Shamaïm, enfin, le cantique du roi David, le cantique du roi David qu'on retrouve et dans le livre de Shmuel, dans le livre de Samuel, c'est la Haftara qu'on lira le premier jour, des derniers jours de Pessah, le septième jour de Pessah partout, mais qu'on retrouve aussi dans les psaumes, dans le psaume 18. Très intéressant cette similitude, avec des petites différences sur lesquelles on reviendra. Mais il y a donc un ensemble de textes alors à lire. Est-ce qu'il faut rester réveillé pendant toute la nuit du septième jour de Pessah? C'est pas sûr. Certains disent qu'on va se coucher plus tard. Certains vont dire qu'on va se lever plus tôt. Certains vont dire il faut qu'à Chatzot, c'est le minuit astronomique qui correspond à peu près à vers 2h du matin, 2h moins quart à peu près. Hein, Chatzot, le milieu de la nuit. C'est à ce moment-là où il faudrait être réveillé pour chanter aussi Shirashirim, le cantique des cantiques. C'est par excellence cantique des cantiques qui est le texte de par excellence de la fête de Pessah. Alors il y a des cantiques, et ça c'est la particularité, c'est la puissance de ce jour du septième jour de Pessah. Alors il y a toujours des paradoxes. Le paradoxe, c'est que le chant par excellence que l'on fait pour les fêtes, et c'est une institution rabbinique, certains disent que c'est une des 7 mitzvot des rabbanan, des mitzvot d'obligation rabbinique, c'est de lire le Hallel un certain jour de fête, enfin pour tous les jours de fête. Eh bien, tous les jours de fête ont un Hallel complet. C'est ça, la fête de Sukkot, du début jusqu'à la fin. Que ça soit pour Shavuot, du début, enfin Shavuot c'est un jour en Israël, c'est deux jours pour nous qui sommes en dehors d'Israël. Alors Rosh Hashanah c'est un jour de fête particulier, les livres des vivants et les livres des morts sont ouverts, c'est pas un jour qui peut se consacrer au Hallel, donc il n'y a pas de Hallel ni à Rosh Hashanah ni à Kippour, mais on retrouve le Hallel pour la fête de Hanouka, même d'obligation rabbinique, les fêtes d'obligation rabbinique, il y a le Hallel. Pourim, on va nous dire que c'était un miracle qui s'est passé en dehors d'Israël, donc est-ce qu'on peut faire le Hallel, c'était pas évident, et puis en plus de ça on va nous dire en racontant, en lisant la Megillat Esther, eh bien, Kriata Zohilula, la lecture de la Megillah remplace le Hallel à tel point que certains iraient dire que si on n'a pas du tout de possibilité de lire la Megillah, on ferait le Hallel le jour de Pourim. Alors, toujours est-il que on fait toujours le Hallel et le Hallel en entier parce que ça c'est le sens du Hallel. Eh ben, le septième jour de Pessah, jour où les enfants d'Israël ont dit le cantique de la Mérouse, Az Yashir Moshe Ovni Israël. Eh bien, ce jour-là, le Hallel n'est pas en entier. Pourquoi? Bin fol o yifra altismar, dit les proverbes. Quand ton ennemi tombe, eh bien, tu te réjouis pas. Et quand les Égyptiens ont été engloutis dans la mer Rouge, Dieu va dire, Masé adai nitpaim bayam, mes créatures sont englouties dans la mer, même si quelque part ils étaient méchants, etc. Ils sont engloutis dans la mer, c'est pas le moment où on peut faire le Hallel complètement. Et donc, le Hallel n'est pas complet. Le septième jour de Pessah, c'est quelque chose qui est unique. Mais je vous propose un des passages qui est lu quand même pendant cette période, puisqu'on saute certains passages, deux passages notamment, mais il y a certains qui sont toujours présents, notamment, je dirais, un des passages les plus emblématiques du Hallel, Hallelu, et c'est le plus petit psaume de tous les psaumes, Hallelu, qui est loué, qui est la même racine que le mot Hallel. Hallelu, Yitzhak Meir Helfgott.
Hashem kol goyim shabechu 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 kolumim shabechu kolumim ki gavar oleinu ki gavar oleinu hasnoy ve'emes 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 Hashem le'yoylom le'yoylom halleluho oydu 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 Hashem We'll be right back.
Alors c'est remarquable, quand on parle du Hallel, c'est en fait une suite de psaumes qui vont du psaume 113 au psaume 118. Heureusement qu'il n'y a pas le 119, parce que 119, 176 versets, ça aurait été un petit peu difficile. Mais enfin bon, c'est cet ensemble de six psaumes, ont aussi dans ce contenu, le psaume le plus petit, le 117, Hallelu et Hashem kol goyim, shabiru kol omim, ki gavar alenu chazdo vemet Hashem leolam, Alléluia. Ce psaume, avec deux versets, c'est un record, c'est le plus petit psaume de tout le psautier. Et qui introduit le psaume 118 avec Hodou Lachem Kitov Kiolam Razo. Louez Dieu parce qu'il est bon. Cette phrase, Hodou Lachem Kitov Kiolam Razo, on la retrouve au début du 118, mais aussi à la fin du 118. Hodou Lachem Kitov Kiolam Razo, c'est le dernier verset, le verset 29 de ce psaume 118. Donc le premier et le dernier verset, c'est le même texte, le même verset, quelque part, copié-collé. Et on retrouve cette notion de ce verset, Odou Lachem Kitov Kilom Chazo, dans un autre hallel. Oui, parce que le hallel qu'on appelle le hallel habituellement, on appelle le hallel la mitzri, le hallel égyptien, parce que au psaume 114, il nous fait référence, Betzet Israël Mimitzrayim, quand Israël sortait d'Égypte. Alors, il y a la référence à la sortie d'Égypte, donc le hallel qu'on a classique, ça s'appelle le hallel mitzri. Le hallel Agadol, le grand hallel, c'est en fait le psaume 136 qui commence aussi avec la même phrase Hodou Lachem Kitov Ki Leolam Chazdo, et qui a en 26 versets, vous savez, c'est ce psaume où toutes les fins de phrases qu'on avait fini Ki Leolam Chazdo, hein, c'est un psaume fabuleux. Et vous avez un autre psaume qui commence aussi avec la phrase Hodou Lachem Kitov Ki Leolam Chazdo, c'est le psaume de Pessah, le psaume de Pâques, le psaume de Pessah qui est le psaume 107 que dans les communautés séfarades on lit en entrée de fête, et qui en fait le psaume de ceux qui doivent remercier Dieu, lié avec le Toda, avec le Gomel. Qui doit dire le Gomel, remercier Hachem quand on a traversé la mer, quand on a traversé le désert, quand quelqu'un était malade et a guéri, ou quelqu'un qui était emprisonné et qui a été libéré, qu'Hachem fasse que tous les otages soient libérés, Bezrat Hachem le plus rapidement possible. Eh bien, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont été libérés, ils ont traversé la mer rouge, c'est le septième jour de Pessah, ils ont traversé le désert, donc tout y est, et ils ont été guéris de tous les maux, qu'Hachem envoie une guérison complète à tous les malades, à tous les blessés, puisqu'on voit qu'au moment du don de la Torah, ils étaient tous valides, ils étaient tous très bien. Alors on a ici quelque chose qui est puissant, qui est dans ce psaume 107, psaume 107, psaume 136, le psaume 118, eh bien, c'est toujours cette phrase, Hodou Lachem Kitov, Ki Leolam Chazdo, louez Dieu parce qu'il est bon, et sa bonté est pour toujours.
Yeah.
Émission spéciale pour cette veille de septième jour de Pessah. On continue notre réflexion sur le Hallel et cette magnifique louange que l'on adresse à Shem, Hodou Lachem Kitov. Le septième jour de Pessah est un jour particulièrement important et très puissant. On a souvent tendance à considérer, à juste titre, le premier jour de Pessah comme un jour énorme, un jour le Seder, la sortie d'Égypte. C'est vraiment fort. Et vous avez raison. Mais le septième jour de Pessah, qui arrive après cinq jours. Alors, en Israël, il y a cinq jours de demi-fête. En dehors d'Israël, il y a encore un jour de fête, puisqu'il y a deux jours de fête au début, et donc quatre jours de demi-fête. En tout cas, on va avoir cinq jours entre le premier jour et le septième jour. C'est un petit peu logique, Rabbi Lapalisse n'aurait pas mieux dit. Mais ce principe de ces cinq jours qui séparent du premier au septième jour va donner un écho à ce qu'on retrouve dans la Haggadah. En effet, dans la Haggadah, le soir de Pessah, on retrouve un passage où il y a une discussion entre d'un côté Rabbi Yossi Aguilili, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, qui font un rapprochement entre les plaies qu'il y avait en Égypte et que les plaies que les Égyptiens vont avoir au moment du passage à mer Rouge vont être cinq fois plus puissantes, cinq fois plus que les plaies qu'il y avait en Égypte, avec donc un calcul que Rabbi Yossi Aguilili va donner en disant il y avait 10 plaies en Égypte, ça tout le monde le connaît, au passage à mer Rouge c'était 50 plaies. Comment, c'est quoi la démonstration? Parce que en Égypte il y avait marqué que Etzba Elohimi, on parlait du doigt de Dieu, c'est par le doigt de Dieu qu'ils ont eu les plaies en Égypte. Et alors c'était les plaies en Égypte, c'était le doigt de Dieu. Et au moment du passage à mer Rouge, il y a marqué qu'on a vu Yad Agedola, la grande main de Dieu. Yad, et dans une main il y a cinq doigts, et donc c'est pour ça que le passage à mer Rouge va être une multiplication par cinq de ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Donc c'est 5 fois plus. Alors, il y a un point qui est très très intéressant, c'est que ce passage de la Haggadah, qui au passage est tiré de la Mechilta de Rabbi Ishmael et la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc un texte du commentaire de la Torah de l'époque des Tanaïm, de l'époque des maîtres de la Mishnah, bien ce texte, d'après Rav Sadia Gaon et d'après le Rambam, d'après Maïmonide, ne figure pas dans la Haggadah. C'est alors une discussion, est-ce que ça doit figurer dans la Haggadah ou pas? Et en fait, il y a un débat, à savoir, est-ce que le soir de Pessah, on raconte la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Égypte jusqu'au 15, alors les plaies, etc., tout ce qui va avant, mais jusqu'au 15 Nissan, et pas après. Or, le passage des mers rouges, c'est après. Et donc, d'après cette lecture, eh bien, il ne devait pas voir donc ce passage de la discussion entre Rabbi Yossi Aguilli, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sur le rapport avec le passage de la mer rouge. Ce qui va expliquer que il y a un débat pour savoir qui était l'auteur de la Haggadah. Alors, certains vont dire, il y a plusieurs textes qui viennent de plusieurs sources. Mais une opinion qui est très intéressante, c'est de dire le premier auteur de la Haggadah, c'est Moshe. Oui, Moïse. Parce que Moïse, c'est le premier père qui va devoir raconter la sortie d'Égypte à ses enfants qui n'ont pas vécu la sortie d'Égypte. En effet, tous les pères qui sont sortis avec leurs enfants d'Égypte, certes, ils vont raconter la sortie d'Égypte à leurs enfants, mais qui ont vécu eux-mêmes. Et puis alors, ils vont grandir. Après, il va y avoir la génération qui va naître, qui n'a pas vécu la sortie d'Égypte et à qui on va raconter la sortie d'Égypte. C'est bien. Mais le premier qui va raconter en fait la sortie d'Égypte à ses enfants qui n'ont pas vécu, c'est Moshe. Pourquoi? Parce que les enfants de Moshe étaient à Midian au moment de la sortie d'Égypte, parce que Moshe s'était déjà marié avec Tzipora, il a eu deux enfants, et quand Dieu le mandate pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, alors spontanément il demande à sa femme et ses enfants de venir avec lui, et ils viennent avec lui, et sur la route il rencontre Aaron, et Aaron lui dit, écoute, on a déjà suffisamment à faire avec ceux qui sont déjà en Égypte, c'est pas pour en rajouter. Et là Moshe dit, bon, tu as raison mon grand frère. Donc il dit à son épouse et à ses enfants de retourner à Midian, et pas aller dans l'enfer égyptien. Et donc sa femme et ses enfants retournent à Midian. Moshe arrive en Égypte, il y a la sortie d'Égypte, et après la sortie d'Égypte, on voit dans Parasha Yitro que Yitro, le beau-père de Moshe, va faire revenir sa femme et ses enfants à Moshe. Et donc ça veut dire que l'année d'après, quand il va avoir Pessah, bien Moshe va raconter la sortie d'Égypte à ses enfants qui n'ont pas vécu. Alors que tous les autres parents, ils racontent la sortie d'Égypte à leurs enfants qui ont vécu aussi. Alors, ils étaient plus petits, mais ils ont vécu. Donc le seul qui raconte à des enfants qui n'ont pas vécu la sortie d'Égypte, c'est Moshe. Très intéressant cette centralité de Moshe, qui nous permet de comprendre que le nom de Moshe est complètement absent de toute la Haggadah. Et oui, si vous regardez toute la Haggadah, le nom de Moshe n'y est pas. Et pourquoi? C'est parce que Moshe, c'est lui-même qui raconte. Et évidemment, avec son humilité et sa discrétion, Moshe n'allait pas se mettre en avant, et donc dans le récit qu'il a choisi de raconter à ses enfants, eh bien, il est absent. Mais tout le monde fait remarquer, mais le nom de Moshe est mentionné justement quand on parle de cette discussion entre Rabbi Yossi Aguilili, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sur le rapport entre la sortie d'Égypte, les plaies d'Égypte et le passage à la mer rouge, où on le cite le verset où Vayamin Hashem ou Moshe Avdo, ils ont cru en Moshe, en Hashem, en Dieu, et Moshe son serviteur. Et là, donc, le nom Moshe est mentionné. Mais si on dit, comme Rav Sadia Gaon et le Rambam et Maïmonide, que ce texte-là ne fait pas partie de la Haggadah d'origine, eh ben, on est dans une logique complète, et le nom de Moshe est complètement absent, donc, de la Haggadah. C'est aussi peut-être parce que Moshe Rabbeinu ne souhaitait pas faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte au buisson ardent. C'était une longue négociation entre Dieu et Moshe pendant 7 jours. Et quelque part, Dieu, Retson, il y a assez. la volonté de ceux qui le craignent, eh bien, il la réalise. Moshe voulait être discret, ben, voilà, son nom ne figure pas dans le texte de la Haggadah. Maintenant, il y a un témoignage très intéressant du fils de Maïmonide, du fils du Rambam, même si dans le Rambam, dans sa Haggadah, il n'y a pas ce texte-là. Le fils du Rambam, Rabbi Avraham ben Rambam, témoigne que son père disait ce passage, donc, de cette discussion entre Rabbi Yossi Aguilili, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, sur le nombre de plaies qu'il y a eu et qui va considérer que la sortie d'Égypte, c'est aussi le passage à mer Rouge. On est, quand on mentionne le passage à mer Rouge, on est dans une partie de la citation du souvenir de la sortie d'Égypte. Et c'est très intéressant parce que on a la mention de la sortie d'Égypte dans le schéma Israël. Hein, le schéma Israël qu'on dit tous les matins et tous les soirs, dans le troisième paragraphe, il se conclut avec la phrase « Ani Hachem Elokechem, je suis éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu ». Donc on a cette mention qui est une obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte chaque jour. Ça commence avec l'acceptation de Dieu, ce qu'appelle Ol Malchut Shamaim, l'acceptation du joug divin, de la royauté de Dieu. Et ce lien entre la sortie d'Égypte et l'acceptation de Dieu comme roi, comme Dieu, comme maître, on le retrouve dans le passage de la mer Rouge, ou dans le cantique Asie Shir Moshe, alors Moshe s'est mis à chanter, etc. Une des phrases de conclusion de ce passage, c'est Hachem Imlor Lam Vaed, Dieu régnera pour toujours. Hachem Imlor, c'est l'acceptation de la royauté, le Malchut Shamaim, l'Olam Vaed. On a les derniers mots de Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, la deuxième phrase du schéma Israël. Alors il y a ici un point remarquable sur l'acceptation de Dieu, et on dit Vayar Israël et Tayad Agedola, Israël a vu la grande main de Dieu, Vayir Ehu Aham, le peuple a eu peur, a craint, Vaya Minu Bashem ou Moshe Avdo, alors ils ont cru en Dieu et Moshe son serviteur. Remarquez que Moshe, s'il n'est pas mentionné dans tout le reste de la Haggadah, il est mentionné ici, mais comme le serviteur de Dieu, et c'est cette confiance qu'on a en Dieu et dans Moshe son serviteur qui va donner tout un sens à cette dimension. Et c'est pour ça que le septième jour de Pessah, c'est le jour où on se renforce dans la crainte de Dieu et dans la foi en Dieu. Et il y a ici quelque chose de très puissant, parce que cette puissance de Dieu va se remarquer dans le Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. En effet, les Égyptiens avaient noyé les garçons des Hébreux dans le Nil, en se disant, Dieu a promis de ne plus punir l'homme par un maboul, par un déluge, puisqu'il y a eu le déluge à l'époque de Noé, et Dieu a dit, je n'amènerai plus de déluge. Alors ils se sont dit, si Dieu ne punira plus par le déluge, ben si nous, on tue par l'eau, Dieu ne pourra pas nous punir, puisqu'il ne punit plus par le déluge. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient choisi l'ingéniosité de tuer les enfants et les garçons hébreux dans le Nil, dans l'eau. Mais manque de chance pour eux, la promesse de Dieu, c'était sur l'ensemble de l'humanité. Et c'était de ne pas amener le déluge sur la terre, mais que des hommes rentrent dans la mer, eh ben ça, c'était pas promis. Et quand les Égyptiens vont rentrer dans la mer et vont être engloutis dans la mer, eh bien là, on va se rendre compte du Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, qui a été appliquée aux Égyptiens et qui va être la manifestation extraordinaire de l'équité de Dieu et du comportement que Dieu a quand où il punit avec mesure. Alors, dans la discussion qui est entre Rabbi Yossi Aguilili, qui lui dit, bon, bah, il y a 10 plaies en Égypte, 10 et pas 11. Vous allez me dire pourquoi ce serait la 11e aurait été la plaie où après l'annonce de la 10e plaie qui va avoir la mort des premiers-nés, les premiers-nés égyptiens se sont rebellés contre les autres égyptiens, ils ont demandé à Pharaon de laisser partir parce qu'ils ont dit on est en danger, et il va y avoir une guerre civile entre les premiers-nés égyptiens et le reste de l'Égypte où il y a eu 600 000 morts. Ah oui, c'est quand même, et c'est ça ce qui est marqué dans le verset, les makem Mitzrayim bifroreem, de frapper l'Égypte par ses premiers-nés. Alors c'était les makés, c'est une maka, c'est une plaie. Oui, mais c'est une plaie humaine. C'est une plaie qui s'est faite par la main de l'homme, pas la main de Dieu directement, alors que les 10 autres plaies, ben, ce sont les plaies. Donc c'est bien 10 plaies, c'est pas 11, et c'est pas 9, parce que c'est vrai que la 10e plaie, elle est spéciale par rapport aux 9 autres. Enfin, elle est annoncée déjà depuis le début, et c'est l'intervention de Dieu sans aucun émissaire, c'est Dieu lui-même. Enfin, c'est un statut spécial, la plaie des premiers-nés. On retrouve donc cette analyse de 10 plaies qui sont multipliés par 5, comme on l'a dit, le doigt, la main. Mais Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva vont se baser sur un verset des psaumes, le psaume 78. 78, c'est 3 fois 26, 3 fois le nom de Dieu. Au verset 49, 49 comme les 49 jours du Homer dans lequel nous nous trouvons. Et là, ce verset, on dit « Shalach bam charon apo » Dieu va envoyer sa colère. Et dans un commentaire de ce texte, Rabbi Eliezer va comprendre que les plaies avaient une incidence par rapport aux quatre fondements qui sont l'eau, l'air, le feu et la terre, et ces quatre éléments, donc ça a donné toute une dimension spéciale pour chaque plaie, donc à multiplier par quatre déjà en Égypte, et donc par cinq après au moment du passage de la mer Rouge. Donc ça veut dire que en Égypte c'était 40 plaies au lieu de 10, puisqu'on multiplie par 4, et donc 200 multiplié par 5, maintenant 40 multiplié par 5. Et enfin, on a Rabbi Akiva qui, lui, va dire en Égypte, c'était déjà multiplié par 5. Donc multiplié par 5 en Égypte, remultiplié par 5 de l'Égypte par rapport au passage de la mer Rouge. On a ici un ensemble de 600 plaies, et on lui dit en fait, Kolamachala, toutes les plaies que j'ai mis en Égypte, Loasim Alecha, je les placerai pas sur toi. Et donc la volonté de rechercher l'ensemble de ces plaies, c'était pour nous épargner de tout cela. C'est pour ça que la fin, la dernière phrase du passage de la mer Rouge, qui nous parle après de l'épisode de Mara qui est un don de la Torah un peu particulier, qui finit avec Ani Hashem Rof Echa, je suis éternel qui te guérit. Le septième jour de Pessah a une puissance de guérison, qu'Hashem envoie une guérison complète à tous les malades. Eli Meloul dans un petit medley avec Shira Hadasha, un nouveau chant, Yom La Yabasha, un poème liturgique spécifique, soit au Shabbat Shira, le Shabbat où on lit le cantique de la mer rouge, soit pour le septième jour de Pessah. Le septième jour de Pessah, vous savez, le passage de la mer rouge, c'est un moment fort. On dit que le mariage est difficile comme le passage de la mer rouge. Donc c'est un moment propice pour prier pour l'âme sœur. C'est un moment propice pour prier pour le Shalom Bayit, le septième jour de Pessah. Et c'est un moment propice aussi pour la Parnassa, et oui, pour la subsistance, d'ailleurs qui est des fois liée avec le Shalom Bayit. Des fois, quand il y a des problèmes de Parnassa, ça a des incidences sur la paix dans les couples. Alors, ces deux points fondamentaux du couple, de trouver l'âme sœur, d'avoir l'équilibre, c'est ça tout, de passage à la mer rouge, c'est caché Zivou Gosh Adam qui crée Tiam Souf, et aussi caché par Nassatosh Adam qui crée Tiam Souf. On retrouve cet aspect où on peut se poser la question, en quoi c'est difficile. Ben ça, on en reparlera à un autre moment. Je vous propose qu'on continue notre réflexion tout à l'heure. Pour l'heure, on continue avec un petit peu de musique et on se retrouve après la musique.
Ya ba 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 ba